Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Juste au moment où Juliette, où soulève Juliette, il voit avec effroi le cadavre de son mari se soulever, tendre une main en l'air comme pour le juger. Cette apparition est effrayante et Julien manque de s'évanouir. D'un coup, le cadavre retombe sur son lit de flammes. Vite, avant qu'il ne soit entouré de flammes, il se dépêche de sortir de la chambre. Juliette dans ses bras. De quitter le salon. Descendre des escaliers. Il entend derrière lui le bruit de plus en plus fort des flammes et le craquement de la maison. Il descend les escaliers qui s'effondrent derrière lui. Il se dirige vers la sortie de la maison. De la maison. Et là, il voit dehors la foule, les badauds, les pompiers, la police. Julien va vers une ambulance. Il dit à l'ambulancier, j'ai sorti des fermes, pouvez-vous voir ce qu'elle a ? L'ambulancier la met dans l'ambulance et le sculpte. Le médecin va vers lui et lui dit « Elle a décédé de ses blessures, je suis navré. C'est de sa famille ?»« Non, un ami, c'est tout. » Il y avait aussi une autre personne qui est morte dans son lit. on a retrouvé le corps du mari carbonisé. Officiellement, il est mort dans l'incendie. La maison a été rasée et le terrain racheté par le groupe Franblanc qui va construire un immeuble. Après enquête, on a dit que c'était un accident. Puis, un policier a trouvé ça louche et a refait l'enquête et a décrété que c'était un incendie criminel. La fille avait aspergé d'essence la chambre. Julien était interrogé. Il a dit qu'il était venu comme ça en visite et que le feu s'était déjà propagé dans la pièce, qu'il ne savait rien de tout ça. La police n'a pas cherché à en savoir plus puisqu'il était l'ami des Franblancs. Julien a été affecté par cette histoire. Il se demande pourquoi elle a agi pour ça. Gilbert lui dit, elle devait beaucoup aimer son mari. Lorsqu'il est mort, elle n'a pas supporté sa mort et croyait que l'on pourrait le faire ressusciter. En attendant, elle l'a momifié. Elle a vraiment cru qu'on ne pouvait le faire. Julien lui dit, elle m'a pris pour un autre. Elle a dit un jour, l'élu. Qu'est-ce que ça peut bien dire? Gilbert lui dit, moi aussi j'ai entendu le nom, élu. Mais je ne vois pas. Ça semble être une sorte de chef de secte ou quelque chose comme ça. Julien lui demande, et pourquoi m'a-t-elle pris pour l'élu? Peut-être le ressembles-tu? Je ne sais pas. Mais c'est bizarre, il y a de plus en plus de choses étranges qui se passent autour de nous. À une soirée de la mère Charlotte qu'elle fait à Paris, elle a invité Monsieur de Janjus qui est revenu à Paris passer quelques jours. Il n'a plus rien à faire. Le nouveau Vatican, c'est-à-dire le nouveau pape, ne le convoque pas. Et la mission que lui a donnée l'ancien reste au point mort. Comment trouver l'élu parmi ses connaissances, surtout si lui ne sait pas qu'il a l'ADN de Dieu en lui? Alors, il ne fait rien. Le Lorsque Madame Franblanc a appris qu'il était de retour à Paris, elle est de suite invitée à sa soirée. Elle lui a accepté. Ces soirées lui rappellent celles des Pontois ou des Hautebord lorsqu'ils y allaient. Lorsqu'il arrive, il y a déjà du monde dans le salon. Il se faufile au milieu de cette foule multicolore et se dit qu'il va se mettre dans un coin pour observer tout ça. Ça servira pour un de ses romans. Car M. de Janjus écrit. Il écrit un peu. C'est lui qui a écrit ces fameux livres tels que Le lac de Montrion, La recherche du commun, Les illusionnistes et quelques autres. Il écrit toujours des histoires pour ses amis. Ce sont que des romans qui ont un peu de succès d'estime et qui sont imprimés à compte d'auteur.
Enfin, à moins que vous me soyez accompagné.
Au-delà du commun, qui est devenu un des livres mystiques et n'a été lu en réalité que par 5 lecteurs. Mais le bouche à oreille a marché et tout le monde en a parlé sans l'avoir lu.
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu. Frédéric a de la chance.
Monsieur de Janjus est un homme estimé. Auquel personne n'a rien de lu de lui, et pourtant le monde dit que c'est un grand écrivain. C'est comme une personne qui n'aurait jamais rien fait et qui aurait la réputation d'avoir beaucoup travaillé durant sa vie.
Vous êtes toujours aussi réservé, mademoiselle.
Non, ce n'est pas.
C'est pas dit.
Monsieur de Janjus vit malgré lui. Je dis malgré lui. De la réputation d'être un grand écrivain sans être lu et vit de cette réputation. Il vit de la réputation d'être un grand homme sans que les gens aient eu la preuve que c'en était un. La notoriété de grand homme suffit à en être un et à vivre comme un grand homme. Dès qu'une personne dit que cette personne est un grand homme, ça fait boule de neige. Et du moment que c'est un grand homme, on n'ose pas se permettre de chercher si c'est vrai. On aurait trop honte de se faire ridiculiser, de ne pas croire à ce qu'il est.
Vous savez qu'elle vous regarde
toutes. Et c'est définitivement prouvé et acquis. Monsieur de Janjus est un grand homme, un grand écrivain. On ne va pas chercher à savoir si c'est la vérité, puisque le tout Paris le dit. C'est comme si on cherchait à savoir si le prince de Monaco était un vrai prince. Mais l'est-il en réalité? La rumeur le dit prince, comme la rumeur dit Monsieur de Janjus, écrivain, grand écrivain, le plus grand de son siècle. Et lorsque M. de Janjus, et parce que M. de Janjus n'a jamais été lu, il aurait pu ne rien écrire, ça aurait été la même chose. Il aurait été de la même façon un grand écrivain de ce siècle. Voilà. Donc, M. de Janjus va se mettre dans un coin tranquille, pour voir les gens tranquillement. Cela donnera peut-être une idée de scène de roman.
Et comme tout le monde, vous ne savez qu'en faire.
Car il continue à écrire un peu, surtout pour son plaisir. Et puis le monde où nous vivons est tellement bizarre. Ce qu'ils cherchent, ce sont des personnes qui ont de la personnalité, qui sortent de l'ordinaire. Le physique, au premier abord, joue beaucoup. Que la personne soit belle ou ait quelque chose. Comme cette femme, avec cette robe verte et sa tête de cheval. Elle n'est pas belle.
Bien, monsieur.
Voilà.
Elle n'est pas belle du tout, mais. Elle est longue, osseuse, Mais tout son corps va à merveille avec son visage et son caractère qui est, comme elle, complètement désossé. Soit tu lui donnes un genre et est un personnage de roman. Une forme, une idée de la femme, un peu folle, qui se jette à la tête de tout le monde. Monsieur de Jean-Jus regarde autour de lui, les mains dans les poches. Tout à coup, il voit un jeune homme discuter avec une jeune fille.
Bonsoir, monsieur. Puis-je vous être utile ?
Non, merci. Le jeune homme éblouit monsieur de Jean-Jus, le trouve extraordinaire.
On vous appelle ?
Adorable.
Ah, oui, merci beaucoup.
Son physique, sa tenue, et à la beauté, la grâce des jeunes gens d'une époque résolue. Une époque où on avait une distinction naturelle cultivée par une certaine éducation.
L'école m'a parlé de vous.
Monsieur de Jean-Jus se dit, quel délicieux jeune homme. Il ressemble à Charles.
Pourquoi pas ?
Lorsque je l'ai connu, il y a quelque chose de plus beau. Je vous demande, qui peut-il être ? La jeune fille blonde, grande, mince, charmante, en robe blanche,
ça va avec la musique. De toute petite bulle.
Le jeune homme reste
Nicole,
une main.
C'était grâce à vous si elle allait mieux.
Oh, ma foi, je...
Mais ce que je
dans les poches,
ce que nous devons
l'autre a le coude posé sur le coin d'une commode. Et la main va mettre sur son front. Et tout, son être est d'une grâce délicieuse. Monsieur de Jean-Jus, n'étonnant plus, va vers ce beau jeune homme. Il lui dit, bonjour, je suis monsieur de Jean-Jus. Le jeune homme le regarde surpris. Il se demande ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Regarde cet homme et regarde et va plus loin. Monsieur de Jean-Jus se sent bizarre. Il se demande, il se dit qu'il ne devrait pas s'éloigner, mais n'ose pas. Il est comme hypnotisé par le jeune homme. Un serveur passe avec un plateau de verre de champagne. Le jeune homme lui fait signe pour en prendre un. Monsieur de Jean-Jus se précipite lui aussi pour en avoir une coupe. Les deux mains se cognent un peu. De champagne tombe sur la manche de monsieur de Jean-Jus. Le jeune homme lui dit, excusez-moi, je suis confus. Monsieur de Jean-Jus lui dit, ce n'est rien, jeune homme. Le jeune homme lui dit, j'appelle Gilbert Franblanc, le fils de la maison. Moi, monsieur de Jean-Jus, je ne vous avais pas reconnu. Me semble comme une seule vue, une ou deux fois. Gilbert lui dit, oui, peut-être, je ne sais pas. Je ne fais pas tellement attention aux gens qui sont dans ces soirées. Monsieur de Jean-Jus lui dit, je comprends, vous êtes comme moi. Vous n'aimez pas ce genre de soirée. Moi, ça me permet de m'instruire pour mes personnages. Gilbert lui dit, vous écrivez des pièces de théâtre ? Non, pas vraiment, mais plutôt des romans. Ah ? Monsieur de Jean-Jus est surpris que l'on ne sache pas qu'il ait écrit des romans. Peut-être que la prochaine génération l'aura complètement oublié. Les jeunes s'intéressent si peu à l'art. C'est dommage qu'un si joli garçon ne le connaisse pas. Il lui dit, je suis monsieur de Jean-Jus. Je suis monsieur de Jean-Jus. Normalement, son nom suffit à le faire reconnaître. Mais là, il ne semble pas. Il lui dit, J'étais l'ami des hautes bords. C'est moi qui les ai fait connaître. Connaissez les hautes bords? Gilbert lui dit. Me semble, oui. Une famille étrange chez qui beaucoup de choses ont commencé. Ils avaient, je crois, des amis, des Pontois. Après, les Pontois se sont un peu évaporés. C'est des gens justes, lui dit. Oui, ce sont ces gens-là que j'ai connus. Ah, une autre époque. Et puis, jeune homme, c'était quelque chose à cette époque-là. Et vous, que faites-vous? Gilbert lui dit. Moi, je ne fais rien. Enfin, je poursuis mes études. Je veux être écrivain. Écrivain? Ah, comme moi, c'est bien. Vous allez prendre la relève, continuer à écrire la suite de cette histoire. J'en suis très heureux. Vous savez, les jeunes gens de notre génération sont tellement différents de ce que nous avons été.
Bonsoir.
Nous n'avons pas été présentés.
C'est fini ce que nous avons aimé. Personne n'aimera ces choses. La peinture de la Renaissance, la musique symphonique, les beaux livres. Tout ça, c'est fini. Même de mon temps, ça commençait déjà à disparaître.
Alors, vous permettez?
Vous me rappelez Charles de Hautebord. Je l'ai connu tout jeune. C'était quelqu'un de très bien et d'une très grande beauté. Vous lui ressemblez un peu, mais vous êtes mieux physiquement. Les traits du visage encore plus fins. Gilbert lui demande, qu'est-il devenu? Il a disparu lui aussi.
Vous êtes toujours aussi réservé, mademoiselle?
Au cours de la catastrophe. Ça a été terrible, terrible. Des millions de gens péri. Il ne reste plus rien des hautes bords.
Oui, je m'en souviens.
D'ailleurs, il représentait une époque résolue. C'était déjà la fin, avant la fin. Gilbert lui dit, mais tout ce que vous aimez existe encore? Oui, bien sûr. Mais qui va voir ces choses dans un musée? Un tableau de la Renaissance, qui écoute une musique du 18e, qui lit des livres. Gilbert lui dit, moi, ça m'intéresse. C'est vrai? Oui. Eh bien, si vous voulez, nous pourrions aller voir ensemble quelques tableaux et écouter de la musique. Oui, je veux bien. J'ai peut-être l'intention d'écrire sur cette époque résolue. Écrire sur ces gens que vous avez connus.
D'ailleurs, merci. Ces messieurs vous le rendent bien.
Merci. Tu as fini? Il est prouvé.
Quel militaire?
Oui, c'est moi, je ne vois pas ton manège, hein. Il est en rouge.
Je ne dois pas regretter.
Et dans les tranchées,
je ne dois pas avoir de la nostalgie.
J'ai peur de croire que c'est la seule.
Oh, mais vous provoquez.
J'ai connu beaucoup de malheurs, vous savez. Gilbert lui dit, faut être digne de ses malheurs. Jean-Jules soupire et lui dit, vous connaissez Guitry? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'était très bien. Oui, c'était très 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 bien. Il me semble.
Vous venez souvent à Cannes?
Gilbert lui dit, vous voyez, votre monde n'est pas tout à fait résolu, perdu.
Comme tout le monde, vous ne savez qu'en faire.
Jean-Jules lui dit, merci, je suis heureux que nous entendions si bien. Gilbert lui dit, bien sûr, moi aussi, ça fait plaisir. Téléphonez-moi quand vous voulez me prendre, donner rendez-vous. J'y manquerai pas. Si Jean-Jules est heureux et se dit qu'à son âge, il peut encore plaire à un jeune homme. Il se dit que ce sera son deuxième charme. Puis, la soirée continue.
Ah oui. Et bien pour ce soir, tu lui diras
Complet.
Bien, monsieur.
Voilà.
Il voit arriver à lui un jeune homme. Le jeune homme lui dit, mais sans vous reconnaître, n'êtes-vous pas monsieur de Janjus? Monsieur de Janjus, qui va rester fidèle à son nouvel ami, lui dit,
oui.
Moi, je suis Julien Sève.
Je ne connais pas.
Julien devient tout rouge et lui dit, c'est normal. Mais moi, je vous connais bien. C'est vous qui avez écrit ces livres si beaux.
Oui, ce doit être moi. S'ils sont si beaux.
Et monsieur de Janjus, gêné, ayant peur de perdre la fidélité pour Gilbert,
bonsoir, monsieur.
Oui, je... car Julien est très beau lui aussi, se retourne. Julien se dit, quel grossier personnage. Et il s'en retourne.
Non, je
tombe sur Gilbert,
merci beaucoup,
qui le voit renfrogné. Il lui demande, que t'arrive-t-il? Rien, je suis tombé sur un gros ours mal léché. Gilbert se retourne, voit M. Janjus. M. Janjus lui dit,
je vais vous quitter.
Nicole m'a parlé tôt.
Demain matin, je dois me lever tôt.
Gilbert lui dit, je vais vous raccompagner.
Pas la peine, merci.
Vous habitez où?
Je suis à l'hôtel Place de l'Étoile.
Mais c'est loin, venez. Monsieur de Janjus le suit. Et ils vont vers la sortie de la maison. Devant la maison, un valet de pied. Gilbert lui dit, allez dire au chauffeur que nous avons besoin de ses services.
Oh ma foi,
bien monsieur.
C'est ce que nous devons faire d'elle maintenant.
Il roule dans Paris la nuit désert. Monsieur de Janjus lui dit,
merci, ça a été une soirée très agréable, surtout grâce à vous. J'espère que nous vous reverrons.
Gilbert lui dit, oui, bien sûr, je vous le promets. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel de Monsieur Janjus qui lui dit
« Merci, merci pour cette soirée, à bientôt. Vous avez un visage extraordinaire, une pureté, beauté, la perfection même. Bonne nuit. »
Le chauffeur sort de voiture pour lui ouvrir sa portière. Monsieur de Janjus sort de voiture et va vers son hôtel. La voiture s'en va. Thank you. Monsieur de Janjou et Gilbert se voient souvent. Ils vont à des expositions, concerts. Monsieur de Janjou lui fait voir des tableaux cachés au fond de salles obscures, dans des petites galeries, des églises et même chez des particuliers. Ils vont à des concerts proposés dans des salons privés par de vieilles maîtresses de maison. Elle lui offre d'anciens enregistrements. Monsieur de Janjou lui parle de sa vie privée, de ses amis. Gilbert aime bien être avec Monsieur de Janjou. Il lui apprend des tas de choses. Il parle de lui à Julien, qui lui dit « Espèce de vieux fou, distant, je me demande ce que tu nous trouves. » Les pédants. Je lui ai parlé une fois, c'est juste s'il n'a pas été grossier avec moi. Et ça m'étonne de lui, il est si charmant.
Le docteur Diver, il est américain et il est venu étudier à Zurich.
Le mois de juin est très beau ici. Vous devriez rester jusqu'au mois de juin. C'est absolument délicieux. Vous pourriez repartir en juillet. À ce moment-là, il fait très chaud. Oui, il fait chaud.
Un soir, Monsieur de Janjou, après un concert, monte à sa chambre de son hôtel. Gilbert continue à parler avec lui. Il passe la nuit à parler de livres qu'il a écrits, qui traitent de la vie, de la mort. Il ne faut pas tout accepter de la vie, mais que si l'on veut. Vivre, que si l'on veut vivre, il faut vivre d'une façon digne, sans se dégrader. Dans une vie dégradante et continuer à garder ses idées. Autrement, si on ne peut pas, il vaut mieux mourir, se donner la mort. Monsieur Janjou lui dit, c'est la base même de ma philosophie. Gilbert est entré chez lui au petit matin. Monsieur de Janjou se dit, c'est comme avec Charles. Passe souvent des soirées à discuter comme ça. Gilbert trouve M. de Jean-Jules très intelligent. Et les jours passent. Gilbert dit à Julien qu'il aime passer la soirée avec Monsieur de Jean-Jus. Put-on jusqu'au matin, Julien lui dit. Dans sa chambre. Fais attention, il est bizarre. Et puis, en plus, on le dit pédé. Il cherche à te séduire. Gilbert lui dit. Tu dis ça parce que tu es jaloux. Il n'a fait aucune avance. Bien sûr, parce que c'est le début. Il ne se permettrait pas. Ça, c'est toi qui le penses. Demande-le-lui s'il est pédé et tu verras. Eh bien oui, je vais le lui demander. Et le soir, il voit M. de Jean-Jus dans sa chambre. Ils sont tous deux assis dans des fauteuils. Gilbert lui dit, là, j'ai quelque chose de délicat à vous demander.
Je vous écoute.
Eh bien, c'est un peu gênant. Mais on m'a dit une chose et j'aimerais savoir si c'est vrai.
Je vous écoute.
Cela risque de vous gêner.
Nous sommes amis, nous. Alors, vous pouvez parler de tout.
Gilbert lui dit, eh bien voilà, on m'a dit que vous étiez homosexuel. Est-ce vrai?
Monsieur Jean-Jules lui dit, à mon âge, la sexualité, c'est fini. Vous n'avez rien à craindre de moi. Et puis, les gens qui traitent les autres de PD le font par méchanceté et pour abaisser les autres. C'est facile. Toutes les personnes que l'on n'aime pas, on doit leur trouver un défaut. Et puis, si ce défaut, on n'en voit pas, on lui en trouve un. Et c'est tellement plus drôle et méchant de trouver une tare sexuelle. Personne est pédée, impuissante, mais surtout pas obsédée. Car un obsédé, c'est quelqu'un qui a du tempérament, et c'est bien d'en avoir. On accuse de choses sexuelles les gens. C'est plus simple, et ça porte. Parce que les gens aiment savoir comment font leur sexualité, la sexualité les autres personnes. Il y a un côté voyeur. Accuser de mort sexuelle une personne, c'est la toucher dans son intimité.
Gilbert lui dit, vous avez raison, mais l'êtes-vous? Monsieur Jean-Jules lui dit,
aucune importance. Pour moi, c'est fini tout ça.
Les jours passent. Gilbert prend l'habitude de voir constamment M. de Jean-Jus, qui a retardé son retour pour Lyon exprès pour être près de Gilbert. Continue à parler de tout, des nuits entières. De l'amour, de la noblesse, du lac de Montrion, de la mystique dans l'histoire. Dans leur histoire, M. de Jean-Jus a l'impression d'être revenu au temps de Charles. Il est heureux et en même temps, il se sent frustré. Car malgré lui, il se dit que sa vie sexuelle, si sa vie sexuelle était finie, cela n'empêche pas de trouver Gilbert très désirable. Il a un sourire si charmant, de petites oreilles, un corps qui est si bien, qui sait si bien mettre en évidence. Il en est fou. Toutes les nuits, il rêve de lui. lorsqu'il le voit, il fait tout pour qu'il ne le voie pas. Gilbert est émerveillé par la facilité dont parle Monsieur de Janjou. Il lui dit un jour, « J'aimerais pouvoir parler comme vous, aussi facilement, mais j'y arrive pas. Je suis incapable d'improviser. Lorsque je le fais, tout s'embrouille dans ma tête. Il faut, avant de parler, que j'ai tout bien préparé dans ma tête. C'est très ennuyeux. » Car lorsqu'on me pose des questions, je suis incapable de répondre correctement. Et je passe ainsi. Un soir, Monsieur de Janjou lui dit,
moi aussi, j'ai failli partir pour le sixième continent. J'y étais invité, ma maison était prête, mais à la dernière minute, je suis tombé malade et je n'ai pas pu y aller. Dieu n'a pas voulu que je meure. Les Pontois, ou Tebeur, Genetou, Diap et beaucoup d'autres ont péri et sont partis. En bateau, avion, imaginez des millions de personnes déménageant. Le cerveau, le centre de la Terre devait être sur le nouveau continent. Tous les grands savants, les grands hommes devaient y vivre. Lorsqu'ils ont englouti, ça a été une immense perte pour l'humanité. Toute la science, le savoir de l'humanité englouti. Sur les autres continents, il ne restait que des gens de seconde zone, comme on dit. Terrible, nous nous trouvions sans cerveau. Et heureusement qu'après est venu des gens de la trempe de votre père. Puis, un jour, M. de Janjou reçoit une lettre du Vatican. Le pape veut lui parler. Il est surpris. Le pape, ce pro-américain, veut lui parler. Il ne peut refuser. Il lui écrit qu'il accepte son invitation et qu'il viendra, si sa sainteté est d'accord, à Rome, à partir de la semaine prochaine, et qu'il pourra le convoquer comme il le désirera. Il dit à Gilbert,
heureusement, obligé de quitter Paris, je dois me rendre à Rome pour affaires diplomatiques. Mais je reviendrai dès que possible.
Gilbert lui dit, je vous souhaite un bon voyage et écrivez-moi.
Gilbert dit à Julien, Monsieur de Janjou est parti, Julien lui dit, tant mieux.
M.
Monsieur de Janjou partit pour Rome en avion. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morvetti.